Voilà. Alors, dans une semaine, c'est la rentrée, hein, un peu plus d'une semaine pour ceux qui vont à l'école. Mardi, officiellement, je crois que c'est le jour de la rentrée. Mais comme je le disais la semaine dernière, la rentrée de l'école, c'est souvent le moment pour, si vous êtes comme moi, de prendre des bonnes résolutions. Parce que pour moi, mon année, je la considère plutôt du mois de septembre au mois d'août que du mois de janvier au mois de décembre. En tout cas, pour notre église, la rentrée, c'est toujours aussi le moment de reprendre les activités régulières et de peut-être songer à des nouvelles activités, des projets, des choses qui pourraient peut-être enrichir la vie de notre église, favoriser son développement, faire en sorte qu'on établisse des contacts avec des nouvelles personnes, peut-être qu'on va faire quelques projets d'évangélisation. Merci Denis, merci beaucoup. Et la question que je voudrais soulever aujourd'hui, dernier dimanche de l'été, officiellement, avant la rentrée scolaire, c'est dans quelle perspective est-ce qu'on devrait envisager cette année qui est devant nous? On a peut-être, et je l'espère en tout cas, des ambitions pour l'année qui est devant nous. En tout cas, Dieu a des ambitions pour nous, vous le saviez. Dieu nous a créés pour que nous portions du fruit en abondance, c'est écrit dans la Bible, hein. Dieu veut que nous soyons riches. Luc 12, verset 21. Pas riche d'un compte en banque bien garni, mais riche pour Dieu. C'est ça l'expression qui est employée dans ce verset, dans la bouche de Jésus. Il veut que nous soyons pleins de réussite, pas de réussite centrée sur nous-mêmes, mais de réussite dans le sens de porter du fruit pour la gloire de Dieu. Mais la constatation qu'on peut faire et que moi je fais, malheureusement, régulièrement, c'est que j'en suis bien loin. Dans ma propre vie, je suis bien loin de porter vraiment tout ce fruit qui, manifestement, aux yeux de tous, va glorifier Dieu. Une vie dont je serai satisfait et dont Dieu serait satisfait pleinement. Je crois que le problème, comme on va le voir aujourd'hui, c'est qu'on a tendance à ne pas prendre la vie du bon côté. On a tendance à avoir un problème de perspective sur notre vie. J'aimerais que vous reteniez cette formule toute simple, c'est que la perspective conditionne nos présupposés. Et nos présupposés conditionnent nos priorités. Et nos priorités conditionnent notre pratique. Et notre pratique conditionne les résultats. Donc tout part de la perspective et des présupposés que nous avons. Je me rappelle de la première fois où j'ai été aux États-Unis, juste après mon mariage avec Suzanne. On a loué une voiture à l'aéroport, et puis bon, au bout de quelques kilomètres, ça va vite aux États-Unis, les voitures sont très puissantes, le réservoir était à sec. Donc on est allé à une station-service. La station-service, ça me connaît, j'avais déjà plusieurs années de permis derrière moi, et aucun problème. Je vais à la station-service, je me gare devant la pompe, j'ouvre le réservoir. Jusqu'ici, rien d'anormal, hein, c'est ce qu'on fait tous, hein. Je prends le pistolet, je le mets dans le réservoir, j'appuie, rien ne se passe. Rien ne se passe. Je suis resté coincé là plusieurs minutes à essayer de comprendre pourquoi ça ne marchait pas. Tout le monde autour de moi semblait avoir de l'essence sans problème, pas moi. Et puis en lisant d'un peu plus près ce qui est écrit sur les pompes, apparemment là-bas aux États-Unis, maintenant je le sais, je ne me fais plus avoir, bien souvent il faut payer d'abord avant de se servir. Et non seulement il faut payer d'abord, hein, Jonas. Non seulement il faut payer d'abord, mais en plus les pompes ne marchent pas comme chez nous, c'est-à-dire qu'il y a un levier à soulever avant de se servir. Et donc moi j'étais arrivé, voyez-vous, pourquoi je dis ça? Parce que j'étais arrivé dans la mauvaise perspective avec des mauvais présupposés. Et ça, au départ, a conditionné le résultat à la fin. Bon, je me suis taper la honte, comme on dit, à rentrer dans la station-service, à leur demander pourquoi la pompe ne marchait pas. On dit, mais vous n'avez pas payé, c'est normal. Et vous allez voir que dans le psaume qu'on est sur le point de lire, le psaume 90, Moïse exprime quelque chose à la fin de ce psaume qui, je pense, caractérise un désir que nous avons tous sur le cœur, le désir que notre vie ait un sens et qu'elle porte du fruit, que nos projets réussissent. Voici ce qu'il dit à la fin, verset 17. C'est une prière qu'il adresse à Dieu. Affermis pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Vous voyez l'insistance de Moïse là? Sa passion. Affermis pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Est-ce que cette requête n'est pas représentative de vos aspirations profondes? Lorsque vous vous tournez vers Dieu dans la prière et que vous lui demandez son aide dans l'accomplissement de vos projets, que ce soit votre travail quotidien ou que ce soit des projets ponctuels, est-ce que ça ne représente pas cette requête, cette prière que vous avez sur le cœur, vous aussi, Mais voilà, il ne faut pas oublier que cette prière au verset 17 est précédée de 16 versets et demi dans le psaume. Des versets, 16 versets et demi qui sont comme le fondement de cette requête, qui conditionne la prière de Moïse. Et c'est à cela que j'aimerais m'attacher cet après-midi. Parce que je pense que ça décrit bien la perspective que nous aussi nous devrions maintenir sur notre vie. Si nous voulons prendre notre vie du bon côté, comme Moïse semble le faire, en tout cas dans ce psaume. Alors on va lire psaume 90, et on va lire le psaume en entier. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, toi tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies donné un commencement à la terre et au monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière et tu dis, fils d'Adam, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il passe et comme une veille de la nuit. Tu les emportes, ils sont comme un instant de sommeil. Qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous défaillons par l'effet de ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes et à la lumière de ta face ce que nous dissimulons. Car tous nos jours déclinent par ton courroux. Nous voyons nos années s'achever comme un murmure. Le nombre de nos années s'élève à 70 ans. Et si nous sommes vigoureux, à 80 ans. Et leur agitation n'est que peine et misère. Car cela passe vite, et nous nous envolons. Qui reconnaît la force de ta colère et ton courroux, selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous ainsi à compter nos jours, afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Reviens, Éternel, jusque à quand? Aie pitié de tes serviteurs, rassasie-nous dès le matin de ta bienveillance, et nous serons triomphants et joyeux en toutes nos journées. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre apparaisse à tes serviteurs et ta splendeur sur leurs fils. Que la tendresse du Seigneur notre Dieu soit sur nous. Affermis pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Je vous invite à la prière avant de continuer. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, s'il te plaît, dans l'étude de ta parole. Conduis-nous par ton esprit, afin que nous retenions tout ce qui vient de toi, et afin que tu utilises ta parole pour nous transformer selon ta volonté. Amen. Ce psaume se divise en trois strophes, hein, c'est comme une bonne chanson, un bon tube du top 50, hein, y a des couplets. Les couplets, je les ai découpés, vous les avez à l'intérieur du bulletin, avec les versets correspondants, versets 1 à 6, versets 7 à 12 et versets 13 à 17. Et dans le premier couplet, la première chose que fait Moïse, c'est de contempler Dieu. Il contemple Dieu, il se pose, il fixe son attention sur Dieu, c'était peut-être lors d'un moment de recueillement personnel, le matin ou le soir, et il se met à penser à Dieu, il se met à penser à lui. Et il ne lui faut pas longtemps à Moïse pour commencer à être absolument ébloui par l'immensité de Dieu. Il est en train de penser au Dieu créateur, le Dieu l'éternel, le Dieu tout-puissant, Dieu le transcendant, Dieu qui est omniprésent, omnipotent, Dieu trois fois saint, le Dieu auquel il a été confronté pratiquement face à face sur le mont Sinaï. Le Dieu avec qui il a parlé, le Dieu qui lui a révélé les origines de l'univers. Il est en train de penser à ce Dieu-là et il est absolument ébloui, époustouflé. Il est en train de se rappeler dans cette première strophe que Dieu est au-dessus et au-delà de tout ce que l'homme peut imaginer, percevoir, mesurer. Il est peut-être allongé sur le dos, sur un plateau herbeux dans les montagnes du Sinaï. On n'est pas sûr du moment auquel il a écrit ce psaume, Moïse, mais bon, il y a pas mal de choses qui se sont passées. Ce qui est sûr, c'est qu'il est dans le désert, puisque Moïse n'entrera pas en terre promise. Et ce soir-là, peut-être que la nuit était tombée, que le ciel était dégagé, et que Moïse était en train de contempler les étoiles en nombre incalculable qui scintillent dans le ciel. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir un ciel étoilé à la montagne ou à la campagne, quelque part où il n'y a pas de pollution, ni de lumière qui interfère, mais c'est extraordinaire. Et Moïse ne le sait pas, lui, mais ces étoiles sont distantes de plusieurs milliards d'années-lumière. Et il ne sait pas non plus que plus de 3000 ans plus tard, avec toute notre technologie, on sera bien, bien, bien loin d'avoir sondé ces distances extraordinaires qui caractérisent notre univers. On vient juste de faire, enfin, on a fait poser un robot sur Mars. Et Mars, c'est la porte à côté. Quand on songe aux galaxies qui remplissent notre univers, Moïse est émerveillé par ce spectacle qui se déploie sous ses yeux. Mais il est en train de penser à Dieu, au Dieu qui a créé tout ça. Et il sait que tout ça, ça pèse rien dans le creux de la paume de la main de Dieu. Souvenez-vous de ce que je disais en introduction, nos présupposés conditionnent notre perspective et ainsi de suite. Le présupposé de Moïse, c'est quoi? Qu'est-ce qui conditionne tout le reste de sa pensée et de sa vie, d'après ce psaume? Son présupposé, c'est Dieu. C'est Dieu? Verset 2. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Voilà le point de départ de Moïse. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Parce que Dieu est au-dessus de tout, par définition. Notre approche du monde, si nous croyons en Dieu, notre approche du monde, notre perception du monde, et a fortiori notre approche et notre perception de notre propre vie, doivent commencer par Dieu. Si vous dites croire en Dieu, Dieu doit être votre présupposé de base pour tout le reste. Sinon, le Dieu auquel vous croyez, soit il n'est pas Dieu, soit vous n'y croyez pas vraiment. Les trois premiers mots de la Bible doivent conditionner notre vie. C'est quoi les trois premiers mots de la Bible? Au commencement, Dieu. Mais en fait, les trois premiers mots en hébreu, c'est au commencement, Dieu créa. Puisque au commencement, c'est un seul mot en hébreu. C'est ça qui doit conditionner notre vie, n'est-ce pas? Au commencement, Dieu. Dieu créa. Et tout par-delà. Penser à Dieu, malheureusement, ce n'est pas quelque chose d'automatique. En fait, on est plutôt enclin à l'inverse. On est plutôt enclin à penser à nous-mêmes d'abord. Ou alors, on peut le dire autrement. On est enclin à penser à Dieu, mais en s'imaginant que Dieu, c'est nous-mêmes. Donc effectivement, si on pense que Dieu, c'est nous-mêmes, penser à nous en premier, c'est penser à Dieu en premier. On a tendance à voir le monde comme évoluant autour de notre propre nombril. Est-ce que moi, je ne suis pas le centre du monde, pourtant? Ben non. Non. Ça serait de l'égocentrisme, mais ça serait logique s'il n'y avait pas de Dieu. Mais s'il y a un Dieu, c'est impossible. Nous devons, si nous croyons en Dieu, prendre le temps de penser à lui, comment il est, de le contempler tel qu'il s'est révélé dans sa parole, de l'observer, si j'ose dire, de réfléchir à ses attributs. Comment est-il, ce Dieu? Est-ce qu'il est une force impersonnelle? Est-ce qu'il est méchant, cruel? Est-ce qu'il agit au hasard? Est-ce qu'il cherche à nous faire du mal, à nous les humains? Comment est-il, ce Dieu? On a déjà pu voir pas mal de choses, déjà depuis le début de ce culte, que Dieu est bienveillant, que Dieu est personnel, qu'il interagit avec sa création, qu'il s'intéresse à sa création, qu'il a un plan d'amour, un plan bienveillant pour le monde. Et dans ce plan, il y a les promesses qu'il fait à son peuple et à tous ceux qui croient en lui. Et en vertu de tout ça, il est venu lui-même en personne, en la personne de Jésus. Contemplez Jésus, regardez Jésus à la croix, vous verrez un peu comment est Dieu. Il est un Dieu qui aime son peuple au point de verser son sang pour lui. Voyez, Moïse a pris le temps de contempler Dieu et par conséquent, son regard sur sa propre existence a été transformé. Et c'est ça qu'on voit dans la deuxième strophe, versets 7 à 12. Moïse prend le temps de penser à Dieu, il médite sur la grandeur de Dieu, sur l'éternité de Dieu, sur la toute-puissance de Dieu, sur certainement d'autres attributs de Dieu. Et par conséquent, qu'est-ce qu'il se met à faire, Moïse? Il se met à relativiser le statut de l'homme devant Dieu. Vous avez vu ce qui se passe. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il passe et comme une veille de la nuit. Seigneur, Dieu, tu es si grand, tu es éternel, hein. Tu les emportes, ils sont comme un instant de sommeil qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Deuxième strophe. Nous défaillons par l'effet de ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes et à la lumière de ta face ce que nous dissimulons. Moïse ne peut pas s'empêcher, après avoir contemplé Dieu dans sa grandeur, il ne peut pas s'empêcher de penser à son propre péché et au péché du peuple dont il est le responsable. Et le pire, c'est que, d'après Moïse, il regarde autour de lui et il voit que personne, en fait, ne se soucie vraiment d'être coupable aux yeux de Dieu. Vous avez vu ce qu'il dit, verset 11 ? Après avoir fait le constat de la petitesse de l'homme et de la culpabilité de l'homme, vous voyez ce qu'il dit, verset 11 ? Mais qui reconnaît la force de ta colère et ton courroux selon la crainte qui t'est due ? Qui en fait reconnaît ça ? Il est un peu désespéré, Moïse, hein, il est un peu déprimé, hein, enfin, et ça on le verra au fil du livre de l'Exode quand on reprendra notre étude du texte, que Moïse, il avait des raisons d'être découragé par les réponses du peuple vis-à-vis de ce que Dieu faisait dans son histoire. Hein. Alors je vous pose une question, à votre avis, la tour Eiffel, elle est grande la tour Eiffel, 300 mètres quand même. Elle culmine au-dessus de tous les immeubles à Paris. Et puis, elle est plus grande que la tour du Crédit Lyonnais, ici, à la Part-Dieu. Hein. Certainement qu'elle est grande, la tour Eiffel. Et par rapport à cet immeuble à Dubaï, là, qui fait plus de 800 mètres, elle est grande, la tour Eiffel ? C'est la moitié de la taille de cet immeuble. Et par rapport à cette fameuse falaise au Canada, qui fait plus de 1300 mètres à pic. Elle est grande, la tour Eiffel ? Elle paraît plus si grande. Hein. Et par rapport à la taille du système solaire, elle est grande, la tour Eiffel ? On la voit même pas de la Lune. C'est ridicule. C'est minuscule. Vous voyez ce que c'est que l'effet de comparaison ? Bien sûr que d'ici, du pied de la tour Eiffel a l'air grande. Mais depuis la Lune, la tour Eiffel n'a l'air de rien. Vous voyez, Moïse, il a pris le temps d'abord de contempler Dieu. Et ensuite, son attention s'est portée sur l'homme. Il a d'abord contemplé Dieu, son présupposé, d'éternité en éternité, Dieu, tu es Dieu. Et ensuite, on va regarder l'homme. Ouh là là ! Il a vu l'homme en comparaison avec un Dieu éternel, un Dieu tout-puissant, un Dieu trois fois saint. Moïse a regardé la tour Eiffel, donc, mais en ayant la chaîne de l'Himalaya en tête, ou le système solaire, si vous préférez, en tête. Et donc pour Moïse, quand il a regardé la tour Eiffel, il ne s'est pas dit « mince, c'est grand ». Il s'est dit « mince, c'est tout petit ». Et c'est ça que Moïse fait avec l'homme. Il a regardé l'homme, il ne s'est pas dit « mince, l'homme est intelligent et fort, 70 ans, c'est long, 80 ans, c'est génial ». Il s'est dit « non, l'homme est tout petit, faible, pécheur, 70 ans, c'est court. Même 80 ans, c'est rien ». Dieu est la mesure de tout pour Moïse. Est-ce que c'est la mesure de tout pour vous ? Quand vous contemplez votre propre vie, lorsque vous considérez votre travail, vos priorités, etc., etc. Il y a ce chant que nous chantons parfois, et que nous allons chanter d'ailleurs après la prédication, « Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes choses pâlissent, pâlisse à ta lumière, deviens pâle à la lumière de Dieu. » C'est un chant tout simple, mais je trouve qu'il résume bien le message de ce psaume. Il faut reconnaître qu'on a naturellement une opinion trop haute de nous-mêmes. On a tendance à penser que l'homme est grand et intelligent et puissant, mais c'est parce que notre perspective n'est pas la bonne. Dans une perspective biblique, en fait, l'homme est impuissant parce qu'il est une créature. L'homme est mauvais parce qu'il est pécheur, il est rebelle contre Dieu. Et à l'échelle de l'éternité, l'homme n'est qu'une vapeur qui se dissipe dans l'immensité du temps et de l'espace. Voilà ce que c'est que l'homme dans la perspective biblique. Et en même temps, l'homme est une créature précieuse aux yeux de Dieu. C'est l'homme qui porte l'image de Dieu parmi tout le reste de sa création. Et donc l'homme a une valeur aux yeux de Dieu. J'aime beaucoup l'histoire de Job dans l'Ancien Testament. Vous savez que l'apôtre Jacques nous invite à prendre exemple sur Job dans son épître, Jacques 5, verset 11 notamment. Je ne sais pas si vous avez déjà lu l'histoire de Job, mais moi, c'est un exemple que j'aimerais pas trop suivre personnellement, parce que Job a été éprouvé à l'extrême. À l'extrême, il a tout perdu. Il a été démuni de tout sauf de sa vie. Et finalement, au bout d'un certain temps, si je peux simplifier l'histoire, Job craque. Il n'en peut plus et il se met à remettre en question son existence, la justice de Dieu, etc. Et là, la réponse de Dieu consiste en quoi? Vous savez ce qui se passe? Dieu ne répond pas à sa question, à ses questions. Mais Dieu se révèle en personne. Il lui montre sa grandeur. Il lui montre son œuvre. Il lui montre les galaxies dans le ciel. Il lui montre la nature, les saisons, tout ce qu'il a créé. Il lui montre sa puissance. Il lui montre qui il est. Et comment il réagit, Job? Et pourtant, Dieu n'a pas répondu à ses questions. Comment il réagit, Job? Lui qui n'avait rien à se reprocher. Il se repent sur la poussière et sur la cendre. Mon oreille avait entendu parler de toi, dit-il, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Vous voyez, notre seule position convenable devant Dieu, c'est l'humilité et la repentance. Ce n'est pas de bomber le torse et de faire le mariole devant Dieu. C'est l'humilité et la repentance. C'est ce que Moïse exprime en tout cas dans cette deuxième strophe. Mais voyons ce que cette perspective a entraîné pour Moïse dans la troisième et dernière strophe de ce psaume. La dernière partie de ce psaume, la dernière strophe, est assez dense et elle nous montre l'échelle de valeur de Moïse. On a dit que l'humilité et la repentance étaient la seule position convenable, la seule posture convenable de l'homme devant Dieu. La posture de l'humilité et de la repentance. Ça veut dire que notre vie, si c'est ça notre position quotidienne devant Dieu, ça veut dire que notre vie devient une invocation perpétuelle de Dieu. Nous sommes comme suspendus à lui, dépendants à 100% de Dieu pour tout. Et voilà l'invocation adressée par Moïse à Dieu au moment où il contemple sa propre existence. Peut-être qu'il est vers la fin de sa vie, je ne sais pas, mais il sait qu'il y a beaucoup de chemin devant le peuple d'Israël encore, comme on le verra lorsqu'on reprendra notre étude du livre de l'Exode. Et dans un ordre très précis, on découvre quel est le système de valeurs de Moïse, les priorités qui vont conditionner sa pratique, les principes qui vont façonner sa vie. Versets 13 et 14, d'abord, Moïse invoque le pardon de Dieu. Et après avoir invoqué le pardon de Dieu, versets 14 et 15, il invoque la joie de Dieu comme réponse à ce pardon. Ensuite, verset 16, il invoque l'instruction de Dieu. Ensuite, verset 17, il invoque la communion avec Dieu, ou la proximité de Dieu. Et enfin, à la fin du verset 17, dernièrement, il demande à Dieu son aide, affermi pour nous l'ouvrage de nos mains. Pardon, Seigneur. Oh, donne-moi la joie de connaître ton pardon, deuxièmement. Troisièmement, instruis-moi. Quatrièmement, sois près de moi, couvre-moi de ta tendresse. Cinquièmement, aide-moi. Aide-moi dans mes projets. C'est un ordre très intéressant. Vous savez pourquoi je le trouve intéressant? Parce que c'est l'ordre de notre liturgie dominicale, où nous commençons généralement, habituellement, notre culte par contempler Dieu, par un texte qui nous invite effectivement à nous placer devant le Dieu créateur, tout-puissant, etc. Ensuite, à nous placer devant sa loi, ses exigences, et à relativiser notre position, et donc à lui demander pardon, mais ensuite à recevoir sa grâce et à nous réjouir de cette grâce par la louange, ensuite à invoquer son instruction par la prédication, ensuite à communier avec lui par la Sainte Cène. Et qu'est-ce qu'on fait habituellement après la Sainte Cène? Nous prions, nous présentons à Dieu nos requêtes. C'est intéressant. En tout cas, il y a un ordre logique Et chez Moïse, cela semble tout à fait logique dans la continuité de son psaume. On a tous une politique de la vie, c'est-à-dire des priorités qui conditionnent notre pratique, une échelle de valeurs qui conditionne nos choix. Et donc, comme je vous le disais, quand je vais à la station-service, avec une certaine perspective, je fais les choses d'une certaine manière. Donc en France, ça se passe dans un certain ordre. J'ai une échelle de valeurs, si j'ose dire, hein. Donc je vais faire les choses dans un certain ordre, j'aurai certaines priorités, ouvrir le réservoir, etc., etc. Tandis que si je fais ça aux États-Unis, j'ai une perspective différente, des priorités différentes, je fais les choses dans un ordre différent. Vous voyez comment la perspective conditionne finalement tout le reste. J'ai aussi employé une illustration une fois. Imaginez que vous n'ayez jamais vu le Mont Blanc de votre vie. Et un jour, vous voyagez, je ne sais pas où, et à l'aéroport, ou dans l'avion, vous êtes assis à côté de quelqu'un qui vient du Tibet. D'accord? Un Sherpa. Un Sherpa, et ce Sherpa, il vous raconte qu'il a gravi l'Everest une bonne quinzaine de fois déjà dans sa vie. Et vous regardez ce Sherpa, il est tout petit, il ne paye pas de mine, voilà. 15 fois, tu as gravi l'Himalaya. Oui, mais attention, c'est une montagne très très difficile, l'Himalaya. Alors vous lui dites, ah oui, j'ai entendu parler d'une montagne chez nous en France, c'est le Mont Blanc. Alors le Sherpa, il regarde, vous rionnez, ah, le Mont Blanc, c'est une petite colline, c'est rien du tout, le Mont Blanc, oh là là, c'est pour les touristes. Alors, je lui dis, ah vraiment? Alors l'été d'après, vous rassemblez vos affaires, une paire de baskets, un Bermuda, un chapeau de paille, un débardeur pour pas avoir trop chaud, une petite gourde, et vous partez à l'assaut du Mont Blanc. Parce que vous n'avez pas la bonne perspective. Alors, est-ce que vous pensez pouvoir arriver au sommet? Je ne pense pas. Parce que vous n'aurez pas la bonne perspective, ni la bonne échelle de valeur, ni les bonnes priorités sur votre projet. Une question de perspective à la base, n'est-ce pas? Quelle est votre perspective sur la vie? Moïse, ici, nous livre une échelle de valeur pour la vie. La priorité de Moïse dans son invocation de Dieu, c'est une demande de pardon. Il a constaté que Dieu, dans sa sainteté, était en colère contre l'homme pécheur. Et la seule réaction à un tel constat, c'est quoi? La seule réaction logique, c'est de supplier Dieu de faire grâce. Si le Dieu Tout-Puissant est en colère contre vous, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Essayer de fuir sur Mars? Ça ne marchera pas, hein? C'est lui qui a créé Mars. Mais le supplier, de faire grâce. Et Moïse le fait, et pourquoi il le fait avec autant de hardiesse? Il le fait parce qu'il connaît les promesses de Dieu. Il sait que Dieu est compatissant et qu'il fait grâce, qu'il est lent à la colère, riche en bienveillance. Il sait que Dieu avait promis de pourvoir au pardon des croyants par un moyen suffisant et parfait. Et définitif. Et nous savons, en fait, nous, aujourd'hui, en 2012, on a un avantage sur Moïse parce que nous, on peut regarder en arrière dans l'histoire et voir précisément ce que Dieu a fait pour réaliser le pardon des croyants. Moïse, il regardait en avant. C'est de la science-fiction pour Moïse. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Il avait les promesses, mais ça ne s'était pas encore produit. Nous savons que ça s'est produit. Jésus, le Fils de Dieu, est venu, il est devenu homme. Il a souffert pour les croyants. Il a été humilié pour les croyants. Il a agonisé sur la croix pour les croyants. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers, comme dit le symbole des apôtres, pour les croyants. Mais il est ressuscité le troisième jour. Il est monté auprès du Père. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il intercède pour nous, pour les croyants. Il nous représente auprès de Dieu. Comme on l'a lu tout à l'heure, rien ni personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Tout ça, on le sait, en plus de ce que savait Moïse. Vous voyez l'avantage que nous avons sur Moïse? Avec combien plus de hardiesse nous pouvons nous approcher de Dieu et lui demander pardon, parce que nous savons qu'il l'a fait. Il est venu en Jésus pour réaliser ce pardon. Il ne va pas nous refuser ce qu'il nous a promis. Et alors, tout en haut de notre échelle de valeur pour la vie, au quotidien, il devrait y avoir cette posture de repentance, sachant que Dieu a pourvu de façon manifeste à notre pardon et au renouveau de notre vie. Lorsque nous apprenons à nos enfants à prier, nous leur apprenons un petit truc tout simple, bon, mais qui peut aider. quand tu pries, si tu ne sais pas quoi dire, essaye de dire merci pour quelque chose, pardon pour quelque chose, et s'il te plaît pour quelque chose. Essaye de dire merci pour quelque chose, pardon pour quelque chose, et s'il te plaît pour quelque chose. Et dans cet ordre-là, il y a un ordre plus ou moins logique, enfin ça vaut ce que ça vaut. Et combien il est important de maintenir en haut notre échelle de valeur, cette repentance. Allez, il faut conclure, je vois que l'heure tourne. Comme nous tous, Moïse avait des espoirs pour sa vie. Il a connu des déceptions, il a connu des succès retentissants, mais aussi des échecs retentissants. Il y avait des souffrances, il a connu des désillusions, des frustrations, des luttes. Moïse était un être humain, comme vous et moi. Il avait les mêmes attentes que nous pour sa vie, les mêmes difficultés que nous, mais probablement de bien pires difficultés que nous, parce qu'il était responsable de quelques millions de personnes qui n'étaient pas enclins à suivre Dieu, et lui, il fallait qu'il les encourage à suivre Dieu. Moi, si moi j'étais pasteur d'une église de quelques millions, je serais très découragé. Mais ce psaume nous montre, il n'y a pas beaucoup de psaumes écrits par Moïse, hein. Ce psaume nous montre dans quelle perspective il considérait sa vie, son ministère, son travail. Il prenait le temps de contempler Dieu, c'est ce qu'on a vu en premier. Il songeait à son incroyable immensité, à sa parfaite sainteté, à son omniscience, à toute puissance. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Et deuxièmement, la conséquence logique de cette méditation sur Dieu, c'était d'avoir une perception toute relativisée de sa propre existence, de sa propre condition en tant qu'être humain. Si Dieu est comme ça, alors c'est ça que ça veut dire pour l'être humain. L'être humain est comme ça, créature limitée, créature faible et pécheresse en fait. C'est intéressant parce que je pense que Moïse cultivait un peu cet antagonisme entre la perfection de Dieu et sa propre imperfection, de telle sorte que sa vie tout entière en était conditionnée. Et justement, troisièmement, les derniers versets du psaume nous ont montré l'échelle de valeur qui a découlé de cette perspective sur la vie, avec tout en haut de cette échelle de valeur, la repentance, la première invocation de Moïse à Dieu. Pardonne. Et c'est seulement après ces 16 versets et demi que vient la requête finale de Moïse. Affermis pour nous l'ouvrage de nos mains. Affermis pour nous l'ouvrage de nos mains. Combien de fois est-ce que nous venons vers Dieu et nous commençons par la fin du psaume ? Salut Dieu, affermis l'ouvrage de mes mains aujourd'hui s'il te plaît, et à ce soir. Enfin, c'est peut-être pas votre cas, hein. Je ne le présumais de rien, mais je sais que c'est ma tendance. Je suis bien plus prompt à m'approcher de Dieu quand je suis en difficulté, dans les épreuves, quand les choses vont bien. Alors nous devons prendre le temps de méditer sur Dieu, de nous humilier, de chercher sa grâce, cette grâce qui nous a rendu disponible en Jésus-Christ. Voici ce que dit l'apôtre Jacques. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez vos cœurs, âmes partagées. Reconnaissez votre misère, menez deuil, pleurez, que votre rire se change en deuil. D'où ça sort tout ça? Approchez-vous de Dieu, et vous verrez comment vous vous sentirez, si vous n'aurez pas envie justement de purifier vos mains, de nettoyer vos cœurs, de reconnaître votre misère, de pleurer sur vos péchés. Voici ce qu'il dit ensuite. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen.